Vous écoutez Indiscopie.
Indiscopie, c'est l'émission qui tend son micro à ceux derrière les jeux vidéo. Aujourd'hui, on est à Paris, on va rencontrer une artiste qui évolue dans le milieu du jeu vidéo depuis plus de 10 ans. Judy Kael m'a donné rendez-vous dans un petit café. Et si nos voix tremblotent un peu, et ben c'est parce qu'il faisait bien froid. Bonjour.
Bonjour.
Alors, déjà, comment on peut t'appeler ?
On peut m'appeler Judy Kael. Mon nom de famille, c'est Livelin. Alors, dans la fabuleuse industrie des jeux vidéo, ça fait à peu près 10 ans que je suis graphiste. J'ai été illustratrice, j'ai été graphiste 2D. Et maintenant, actuellement, ça fait 2 ans que je fais de l'interface et de l'expérience utilisateur. Je fais aussi un petit peu de direction artistique, de la direction sonore, des animations, des bannières web, tout ce que tu veux. Et je fais aussi les anniversaires et les bar mitzvahs.
Non, sérieusement. On veut tes tarifs. Donc ça fait 10 ans que tu travailles dans l'industrie. Tu as beaucoup bossé sur des jeux mobiles,
oui.
J'ai l'impression.
Ouais.
Tu peux nous conter un petit peu ton parcours jeu après jeu. Alors j'ai pris des notes, mais j'ai l'impression d'être un employeur qui regarde un CV, c'est assez affreux. Donc je vais te laisser faire.
J'ai commencé à travailler sur des jeux Facebook à l'époque de la bulle Facebook. Ouais, c'est pas la peine de me regarder comme si j'étais un dinosaure.
J'ai rien dit.
Je suis arrivée à la fin de la bulle Facebook, mais il y avait encore quelques opportunités et j'ai pas trop galéré à trouver un taf à la fin de mes études grâce à ça. Du coup, j'en suis très très reconnaissante. Et ensuite, la boîte qui faisait des jeux Facebook a coulé et je suis allée travailler sur des jeux mobiles. C'était à peu près les mêmes genres de contraintes, toujours du live ops, je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors le live ops, en fait, c'est des jeux qui sont plus basés sur... c'est des free-to-play, en général, ou des jeux pas free-to-play, mais il y a du contenu qui est révélé régulièrement.
D'accord, pour attiser un peu l'appétit du joueur, quoi.
Exactement, et l'attirer à revenir régulièrement aussi, voir des bannières de pub, et voir qu'il dépense de l'argent. Et le live ops, c'est tout un écosystème. Il y a les data analysts qui vont regarder comment ça fonctionne, sur quoi ils vont cliquer, sur quel mode de jeu ils vont jouer. Et ensuite, il y a les game designers qui vont arriver, qui vont faire des trucs pour que les gens restent encore plus longtemps. Des challenges, du contenu qui n'est donné qu'une fois par semaine dans des dates précises, ce genre de choses. Et après, nous, en tant que graphistes, il faut produire tous les assets, les bannières, le contenu, les animations.
Toute l'interface qui est faite aussi pour capter l'attention, j'imagine.
Ouais. Ça, c'était mes premiers boulots. Et c'était cool. Mais maintenant, le marché est tellement concurrentiel parce qu'il y a énormément de jeux qui sont en live ops, c'est comme ça, que c'était dur de retrouver du taf derrière. Et c'est pour ça que je suis passée à quelque chose de complètement différent. Là, je suis en interface utilisateur, mais avant, j'étais freelance.
Ah, illustratrice freelance ou en game design freelance.
Game artist freelance, on va dire, parce que j'ai fait aussi de la DA. On avait fait un collectif avec des amis
qui s'appelait Blueprint.
Oui. Et donc il y avait deux programmeurs, un programmeur sound designer en fait et un programmeur, une GD qui est aussi conceptrice pédagogique et moi.
Oh, et le projet, c'était quoi ?
On a répondu à un appel d'offres d'un chercheur du CRI autour de l'apprentissage des sciences et surtout de l'apprentissage des molécules. Donc c'était un jeu où tu photographiais des petits mobiles en plastique avec des molécules et ensuite l'application les reconnaissait et tu pouvais interagir avec.
Ça s'appelait Pangu ? Pangu ?
Oui.
Comment tu dis ?
Pangu.
Le collectif Blueprint, pourquoi t'en es parti ?
En fait, je n'en suis pas vraiment partie.
Ah.
Il existe encore, seulement les deux fondateurs, les deux membres les plus actifs du collectif, Gary et Anne, ils ont fait leur boîte de jeux. Ouais, ça s'appelle Team Fortou, un petit peu de pub pour les potos.
C'est eux qui font Snowtopia.
Ouais.
Oui, ce jeu de simulation, de gestion plutôt, de station de ski.
Et comme Anne et Gary, enfin tout le collectif, on partage à peu près les mêmes opinions sur plein de choses, notamment l'écologie et l'économie, ils ont fait un jeu où il n'y a pas d'argent. Ouais. C'était le gros défi du jeu.
et comment on construit une station sans argent.
C'est avec la satisfaction du joueur. Enfin, la satisfaction des petits personnages, pardon. Je me suis trompée.
Des visiteurs.
Ouais. Après, j'ai pas encore joué au jeu. J'y jouerai bientôt. Et je vous le conseille, c'est bien.
Tester Snowtopia.
Mais ouais.
Donc du coup, tu fais toujours partie du collectif, mais effectivement, comme vous êtes tous sur vos projets perso, c'est peut-être plus compliqué de vous lancer dans un nouveau projet. Quoi.
On a des projets en arrêt parce que du coup, on était en train de faire des choses en attendant. Enfin, on faisait des choses en parallèle de Snowtopia, et là, on attend qu'ils finissent pour se remettre à ces projets-là, quoi.
Tu es parti un petit peu vers le jeu de société ou je me trompe?
Oui. C'est actuellement, ça fait 2 ans que je travaille pour Asmodée Digital et on fait des adaptations de jeux de société en jeux vidéo.
C'est le même jeu porté sur mobile ou c'est en complément du jeu de plateau?
Alors, c'est pas juste sur mobile, c'est multiplateforme. Là, on a sorti des jeux sur PlayStation 4, sur Switch, sur Xbox. On essaye vraiment de se diriger vers le multiplateforme mais aussi justement sur le jeu PC, quoi. C'est à peu près la même chose, sauf que le multiplateforme, c'est vraiment un vrai challenge parce que là, on se dit... Ok, je vais faire ce bouton-là, il doit être cliquable, il doit être touchable, et il faut que sur Switch, quand on change de configuration, tu sais qu'on peut changer, on peut se mettre en mode console, en mode touch, faut que ça soit compatible avec absolument tout. En ayant en général le moins de boutons possibles, enfin d'assets possibles, comme ça, tout a le même look sur toutes les plateformes. Mmh. Et c'est un vrai casse-tête. Mais c'est super challengeant, mais c'est un vrai casse-tête.
Comment on pense une interface?
Quand on part de rien, on commence par faire des mock-up et des assets. Et on a...
C'est quoi un mock-up?
Ah, un mock-up, c'est une maquette. T'as différentes sortes de mock-up, maquettes. Des choses très évoluées qui ressemblent exactement à ce que tu vas avoir dans le jeu. Et des choses très schématiques, on appelle ça en greybox. Où on a des choses toutes grises avec des boutons tout blancs et avec des gros contours noirs, histoire de voir où sont placés les assets. Alors, dans le cas d'Asmodée Digital, c'est très particulier parce que je suis arrivée en cours de projet sur tous les projets. Tous les projets existaient déjà quasiment. Et ce qu'on a fait, c'est de l'amélioration. Donc, c'était plus simple, j'imagine, que de prendre toutes les décisions de création d'interface directement. On avait déjà toutes les fonctionnalités, il fallait juste les replacer et ajouter des nouvelles contraintes. Par exemple, on part d'un jeu mobile, maintenant il faut le mettre sur Switch. Ou on part d'un jeu mobile et maintenant il faut le mettre sur Switch, sur PS4 et sur Xbox.
Allez, amusez-vous.
Et c'est drôle parce que tu vois ce que c'est les TRC? Alors les TRC, c'est des obligations propres à toutes les plateformes. Par exemple, chez Nintendo, le truc évident, c'est que les contenus un peu adultes, faut les modérer. Sur iPhone aussi. Et sur console, par exemple, on a une TRC qui est assez classique, c'est qu'aucun écran ne doit être fixe. Parce que sinon, on dirait que c'est buggé.
Ah, on a l'impression que ça freeze.
Exactement.
Ah, ok.
Et ça, il y en a plein d'autres. Certains boutons doivent avoir certaines étapes. Ou même côté serveur, faut que ça soit compatible avec leurs normes serveur aussi.
D'accord, beaucoup de contraintes techniques en fait.
Là, les développeurs sont en train de s'arracher les cheveux, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle.
À chacun son truc.
Oui, oui.
T'avais voulu faire ça au départ quand t'as fait tes études. Toi, t'es passé par l'Engmin, si
ouais.
Je me trompe pas.
Ouais. J'ai fait cette école parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Non, mais vraiment.
Donc tu t'es dit, je vais faire du jeu vidéo.
Mais ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que je venais de sortir d'un voyage au Japon. C'était un peu le but ultime de ma vie quand j'étais ado. J'avais réussi ça. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai fait le truc, quoi. Et j'ai reçu un appel d'une amie qui m'a dit, ah, je suis à l'Engmin. Ça te dit de faire ça? C'est quoi l'Engmin? C'est une école de jeux vidéo, allez bien. Et j'ai fait ça.
Ça a l'air facile quand t'en parles, alors qu'il y a un concours
oui.
Hyper sélectif.
Ah oui.
Ah, ça te rappelle des souvenirs?
Non, je sais pas, le concours ça m'a beaucoup amusé de le faire. Parce qu'on avait un dossier. Enfin, moi j'ai fait l'Engmin en tant qu'artiste, du coup on avait un dossier d'art à remplir avec des créations visuelles et un concept de jeu à développer. Et ça m'a beaucoup amusé de le faire en fait. Vraiment.
T'y allais sans pression, quoi.
Non, pas trop. Enfin, j'avais vraiment envie de rentrer dans l'école, parce que au final, mon amie m'avait beaucoup motivée à le faire.
Elle le faisait aussi en tant qu'artiste ?
Non, elle était en chef de projet.
Ah.
Et ouais, au final, je suis rentrée dans l'école, ça m'a beaucoup plu, j'ai découvert que bosser en équipe, c'est trop bien, puisque à la base, je voulais faire maître de conférence en art plastique.
Ah.
Ça n'a rien à voir.
Petit décalage de carrière.
Ouais, je voulais faire de la recherche, en fait. Et quand je me suis retrouvée devant mes premiers rendus de thèse ou de mémoire à rendre, et qu'il fallait vraiment écrire des choses... et ben, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi.
Petite frustration, quoi.
Ouais, ouais. Et puis même, j'aime pas bosser seule. C'est ça le pouvoir du jeu vidéo, c'est qu'on est une équipe soudée. Et c'est trop bien, enfin, quand on est une équipe soudée.
Oui, quand on tombe sur les bonnes équipes. T'as ouais. eu de bonnes, de mauvaises expériences, justement, avec cet esprit d'équipe.
Quand j'étais junior, je savais jamais comment me positionner par rapport aux équipes. Et du coup, j'étais super timide. Je savais pas exactement comment faire pour communiquer avec les gens. Et j'étais bien dans mon... coin.
Alors junior, c'est les débutants, mais ça dure combien de temps, stade de junior?
Ah, c'est une bonne question. Ça dépend de plein de choses. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à se débarrasser de leur statut de junior à partir du moment où ils ont fait un ou deux gros projets. Moi, c'est... Je sais pas, c'est toutes les expériences que j'ai eues qui font que je me considère plus maintenant comme une junior. Je pense qu'au bout de 10 ans de carrière, quand même.
Tu peux te considérer comme
senior.
Voilà.
Mais ouais, les 2-3 premières années de carrière, je savais pas exactement comment faire pour communiquer avec les autres gens. J'étais beaucoup dans mon coin.
Et finalement, oui, ça a beaucoup changé.
Un petit peu, quand même, ouais. Puis je suis là, à ce modèle digital, on a une équipe vraiment sympa. On fait du sport ensemble de temps en temps.
Vous êtes combien?
On est 70, je crois, un peu moins.
D'accord. Studio de taille moyenne.
60, je pense.
Donc vous connaissez tous. C'est pas le genre de studio où tu croises quelqu'un à la machine à café, tu connais pas son prénom.
Bah si, parce qu'en fait il y a 2 étages.
Oh.
Ouais, il y a le 6e avec lesquels j'ai très peu d'interactions et le 5e avec lesquels j'ai beaucoup d'interactions. Donc
désolé,
les gens du 6e, c'est pas que je les apprécie pas, c'est juste que comme je les vois pas, ben je reconnais pas leur visage.
Alors t'es aussi vice-présidente ou co-présidente?
Alors je suis co-présidente parce qu'on est actuellement 3 co-présidents.
Ah d'accord. Du RIJV, donc ouais. Rassemblement inclusif pour le jeu vidéo. Kezako.
Alors, le RIJV, c'est une association qui avait été créée avant que je le rejoigne par des personnes super talentueuses et engagées qui ont créé plein de bases dont on a pu servir maintenant pour faire des choses. Le but de l'association est assez large parce que c'est autant dans l'entreprise d'une manière générale que dans le contenu des jeux. Et même pour les personnes qui sortent complètement du jeu vidéo. Par exemple, les amateurs qui veulent faire des jeux vidéo. Notre but, c'est d'apporter de la visibilité dans les représentations des minorités et aussi d'apporter de l'inclusivité dans les groupes et les échanges qu'on fait. Parce que c'est important de se sentir en sécurité quand on est une personne, je sais pas, racisée, LGBT, transgenre et qu'on a juste envie de faire des activités culturelles. Nous, au début, on faisait des after-work. Des ateliers. On a fait quelques conférences aussi et on a été présents sur des événements jeux vidéo. Ça, c'était quand on était beaucoup plus nombreux. Maintenant, on est assez peu en finale dans le RIJV, mais on continue à faire les ateliers. C'est quelque chose qui nous tient bien à cœur. Surtout, ça nous tient à cœur que ça soit gratuit et facile d'accès pour les personnes qui sont en situation de handicap, par exemple. C'est à la bibliothèque...
Louise Michel,
ouais.
C'est ça, à Paris.
Ouais. Big up au personnel de Louise Michel, ils sont tous adorables, autant les uns que les autres. C'est un lieu d'amour, quoi.
Et pourquoi toi tu as voulu t'investir dans le RIJV?
Moi j'ai fait partie déjà de pas mal d'associations dans mon passé et il y a quelques années j'avais fait le Django Girl, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'était un événement pendant un jour. T'apprends à faire un site internet de A à Z.
Oh.
De l'infrastructure aussi, back-end, front-end. Enfin, back-end, c'est côté serveur, tout ce qui communique avec la machine. Front-end, c'est côté client, tout ce qui est du côté de l'écran, en fait, des interactions. Et cette journée était trop bien. Parce que le principe, c'était vraiment un principe d'inclusivité. On était dans un espace safe. On avait le droit d'avoir des questions, de rien comprendre, de faire des pauses. Il n'y avait que des meufs, c'était Django Girl. Il y avait des personnes LGBT aussi, des meufs trans. Et c'était trop bien, en fait, parce que je ne me sentais pas jugée, je ne me sentais pas...
Observée.
Ni classée dans une catégorie. Tu vois, c'est bon, t'es une meuf, tu vaux moins, tu ne comprends pas les maths. C'est un cadre que je veux reproduire dans la vie de tout le monde, le plus possible.
Que ce soit dans les studios ou à l'extérieur, en fait.
Tout le temps.
Et justement, est-ce que tu penses que le jeu vidéo a... Je pose une question un peu rhétorique.
Hey.
Le jeu vidéo n'aurait-il pas des petits progrès à faire en matière de représentativité?
Des petits problèmes, Alors, justement, c'est assez drôle que tu me poses cette question, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de faire des choses folles. Mais de temps en temps, il y a des gens qui viennent nous demander « Comment est-ce que je fais pour apporter de l'inclusivité à mon studio de jeux vidéo ?»
Ça arrive.
Ouais. C'est des gens qui sont pleins de bonnes intentions. Et du coup, on a envie de leur répondre un pavé monumental de « Alors, faut faire ça, ça, ça et ça. » Et puis là, du coup, on est en train de travailler avec certains membres à justement la rédaction de ce pavé monumental. Parce que...
Une sorte de mode d'emploi.
Ouais, c'est assez simple au final.
C'est vrai ?
Ouais. Il suffit juste d'engager des gens divers et de les mettre à des postes de responsabilité.
Mais alors, il y a des gens qui vont te dire, pour les femmes par exemple, il n'y en a pas assez de formées, donc pour les embauches, forcément, on a moins de choix, donc on en prend moins. J'ai déjà entendu cet argument.
Ouais, je sais.
Est-ce que du coup, il faut traiter aussi le problème à la racine ?
Moi, je crois que surtout, ça vient d'un problème de recherche, parce qu'il y a énormément de femmes formées au final. Mais elles ne vont pas forcément aller sur les réseaux sur lesquels on va poster les annonces pour les jeux vidéo. Parce qu'on est un circuit fermé. On va beaucoup rester entre nous, on va chercher dans les écoles de jeux vidéo.
Beaucoup de bouche à oreille aussi.
Beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de copinage. Enfin, faut pas se leurrer. Quand tu connais machin, c'est un prog super talentueux, ben tu vas lui donner le CV. Et c'est dommage. Tout le monde ressemble à... Enfin, il y a un canevas type du développeur de jeux vidéo, c'est un mec blanc, barbu, avec un t-shirt rigolo. et dans les patrons, c'est pareil. C'est des mecs en costard, grands, ils n'ont pas de t-shirt rigolo, mais par contre, ils ont des chaussures à bout pointu. Et c'est pareil. Et donc, du coup, t'as ce cliché qui perdure. Parce qu'ils ils embauchent très peu de femmes à des postes de responsabilité. Quand ils le font, parfois, ils les mettent au placard et ensuite, c'est « Ouais, mais non, mais on a trouvé ce mec plus jeune qui est plus sympa avec le patron que toi et du coup, il a monté les échelons plus vite que toi. » Et je parle pas forcément que de ma boîte. Enfin, je parle même peut-être pas de ma boîte, mais c'est des échos que j'entends tout le temps. Et c'est hyper frustrant parce que, tu vois, toutes ces personnes talentueuses qui disparaissent de l'industrie parce que leur boulot, c'est pas de se battre pour faire leur travail, c'est juste de faire leur travail. Je pense que c'est comme ça dans toutes les industries, hein. Absolument.
Pourquoi t'imaginais pas faire du jeu vidéo un jour ?
Déjà, je viens pas forcément d'un environnement hyper épanouissant. Je viens d'une famille d'immigrés. Mes parents ont galéré de ouf quand j'étais plus jeune. Il y a des moments où ils se privaient de bouffe. Où on pouvait chauffer qu'une seule pièce, on était au secours populaire, on a fait Emmaüs tout le temps. J'avais les fringues de mon grand frère et de ma grande sœur avant moi, avec des trous. Mais moi, je ne me rendais pas compte que c'était différent. C'est juste quand j'ai été confrontée à d'autres personnes que je me suis rendu compte que ce n'était pas la norme. Mmh. Et du coup, c'était juste pas une proposition de carrière valable de faire du jeu vidéo.
C'était pas envisageable.
C'est pas même pas envisageable, c'est que je le conceptualisais pas. Et...
Déjà, est-ce que t'étais au courant qu'il y avait des écoles qui existaient pour ça ?
Ouais, mais ça avait l'air cher. J'étais boursière déjà. J'ai été boursière très tôt, dès le lycée, parce qu'on n'avait vraiment pas de thunes, quoi. Et toutes les écoles, elles avaient l'air d'être hors de prix. Et ça m'a très vite découragée. Et au début, je voulais faire de l'animation. Je voulais aller faire une école, tout ça. Et les prix, je voulais juste pas m'endetter et bosser, mourir à la tâche pour bosser et payer mon école. C'est pour ça qu'à la base, j'avais fait une fac d'art. Je me suis dit, bon, l'égalité, tout ça. Et quand mon ami m'a dit « il y a une école gratuite de jeux vidéo. Et en plus, c'est Angoulême, ça coûte que dalle. Avec les bourses, tu vas pouvoir te payer un logement. »
Oui, parce que c'est public.
Oui, et puis en plus, Angoulême, ça coûte vraiment que dalle, un logement. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un truc à 300 balles avec les APL, quoi. Et un truc correct, hein, je veux dire, c'est pas un 9 mètres carrés, c'est plus un 30 mètres carrés. Et du coup, je me suis dit « waouh, ça existe. Il suffit juste de faire un dossier et de... Je sais pas, de se prouver qu'on peut le faire, parce qu'au final, il y a plein de gens qui essayent et qui se découragent en cours de route, parce que c'est long. Faut faire le dossier, faut faire l'entretien, faut faire le test en présentiel.
Ah, il y a un test aussi.
Ouais, il y a trois trucs. Il y a le dossier, c'est la première étape. Après, il y a un test où on est tous dans un espèce d'amphithéâtre à répondre à des questions.
Alors, quel genre de questions ? C'est sur la culture jeux vidéo ?
Exactement. Ou... Et aussi, culture jeux vidéo, et aussi, il y a des questions un peu de dev, de culture générale.
Ça se prépare très bien, quoi.
Ouais. Assez. D'ailleurs, il donne des livres à lire pour préparer le concours.
D'accord, il y a une bibliographie. Ouais.
Et après, il y a l'entretien individuel où on prouve sa volonté de faire l'école. Ça peut paraître anodin, mais il y a pas mal de gens qui tentent le concours et qui abandonnent en cours de route parce qu'ils se disent que c'était pas fait pour eux. Mais comme tout, hein, au final, on peut savoir que quand on y est. Et...
Donc le message, c'est un peu aller au bout et au pire, vous verrez bien.
C'est exactement ça. Après, ça a changé. Moi, j'ai fait partie de la 5e promotion de l'Engmin. Maintenant, je sais plus, ils en sont à la 15e. Ça fait 10 ans, ouais. Et ça a beaucoup changé. Donc les choses que je raconte sont peut-être plus valables. Faudra se renseigner si vous voulez un jour faire l'Engmin.
Mais en tout cas, c'est quelque chose, un parcours que tu regrettes pas du tout.
Non, non, non. Vraiment, ça m'a énormément apporté de faire cette école. En plus, je veux dire, non seulement ça m'a apporté en ouverture d'esprit, aussi en confiance en moi, parce que même si je suis pas non plus l'étendard de la confiance en moi, ça, j'ai rencontré des gens qui avaient des profils divers et c'était trop bien de leur parler et de confronter nos expériences, parce que c'est à partir de licence, c'était que des gens qui avaient déjà fait des études ou des parcours un peu atypiques. Et
justement, il y avait une mixité finalement dans la promo.
Il y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait... Après, il y a eu des personnes LGBT et il y a eu des personnes qui ont fait leur coming out après. Et c'est cool. Quelques personnes racisées aussi, mais c'était pas non plus la panacée, quoi. C'est toujours blanc, hein, mais je veux dire, de toute façon, il faut être conscient quand on fait partie des enfants d'immigrés. Je sais plus, il y a un truc comme 5% de personnes qui font des études supérieures. C'est minuscule.
On m'a souvent dit que l'Engmin avait un programme qui était surtout penser le jeu vidéo, en fait, réfléchir le jeu vidéo.
Ouais, alors, c'est pas le moment le plus glorieux, mais moi, dans la section art plastique, dans la section de... Ils appelaient ça direction artistique, j'ai pas vraiment appris grand-chose techniquement. On a eu quelques ateliers, ou des ateliers 3D, ou des ateliers... d'animation, mais c'était de l'animation 2D. Du coup, c'est comme dans toutes les facs. En fait, on sous-estime énormément ça, mais c'est énormément de travail perso. Et c'est quelque chose que les profs devraient mettre plus en avant, parce que les élèves se le disaient entre eux, mais c'était pas une directive claire. Après, ouais, tu me diras, faut bosser, quoi. C'est comme ça, faut apprendre des choses, faut faire des tutoriels, faut passer des nuits à essayer de maîtriser ces milliers de logiciels compliqués qui nous permettent de faire de la 3D, des FX, des maquettes, ce que tu veux.
Mais encore faut-il savoir vers où commencer, enfin...
Ouais, j'avoue que moi, j'ai eu cette expérience-là sur mon projet de dernière année, j'ai fait un peu de 3D, mais j'avais un mec qui, avant de faire l'Engmin, c'était un... Il faisait graphiste et il faisait de la 3D d'un point de vue industriel. Et du coup, il avait une énorme expérience en 3D. Du coup, les trucs que je faisais en une semaine, lui, ça lui prenait 3 heures. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on commence dans un métier ou dans un domaine d'être confronté à ça, parce qu'on se dit « Waouh, mais je suis qu'une merde, j'y arriverai à rien, autant arrêter tout de suite. » Et c'est marrant parce que faut pas se dire ça. Parce qu'il faut déjà, à chaque fois qu'on commence à faire quelque chose, on est toujours débutant, donc on est toujours mauvais, c'est normal. Et même dans 10 ans, quand vous aurez maîtrisé cette chose-là, vous allez tomber sur des gens qui vont vous voir travailler et qui vont être découragés. Parce qu'ils commencent juste à faire cette chose et c'est impressionnant de voir quelqu'un travailler si vite. Mais c'est parce qu'il y a eu 10 ans entre-temps, 10 ans ou moins d'expérience.
Et est-ce que toi, aujourd'hui, t'es pas aussi admiratif d'autres personnes qui vont encore plus vite que toi parce qu'ils ont encore plus d'expérience ?
Maintenant, je suis plus dans cet état d'esprit parce que justement, je suis professionnelle et je pense pas, je suis admiratif, je pense à « je veux bosser avec cette personne, je veux l'engager ». Directement.
Ah oui, autre dynamique. Est-ce que il y a un souci aussi de légitimité quand on commence ?
J'ai pas senti de racisme, disons les choses clairement, en tant que femme. C'est insidieux. C'est très insidieux. Parce que c'est génial de t'avoir dans l'équipe, tout ça. Et après, quand tu vas commencer à vouloir prendre des responsabilités, quand tu vas vouloir... avoir des décisions stratégiques. C'est « Ah non, 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 on va t'épargner ça. Attends, s'il te plaît, ça te fait trop de travail. S'il te plaît, prends soin de toi. »
Ah, tu es une petite chose fragile.
Oui. Donc, c'est insidieux. C'est pas tu es une femme, tu vaux rien. Non, 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 non. Tu es importante dans l'entreprise, que tu apportes ton travail est cool. Mais ne va pas plus loin, s'il te plaît.
Oui, reste à ta place.
Voilà.
Et c'est difficile, justement, d'évoluer dans ce milieu-là, de monter les échelons, de diriger des équipes, de...
Ben, moi, je le fais pas. Parce que, justement, plafond de verre. Salut. Le peu de femmes que je connaissais qui ont dirigé des équipes et tout ça, elles se sont battues comme des tigresses, quoi. Et puis, après, au bout d'un moment, elles fatiguent, elles s'en vont. Et en fait, quand tu y réfléchis bien, t'en connais beaucoup des seniors dans le jeu vidéo, des femmes. Et des femmes qui ont des enfants, par exemple. Ah, je dis qu'il y a qui ont des enfants, mais vous avez le droit de pas en faire.
T'en connais ?
Ben, y en a énormément qui partent, parce que justement, c'est pas l'égalité des chances. Et comme je te disais, y a beaucoup de lobbying à faire pour monter dans la hiérarchie, ce qui devrait pas... Enfin, c'est vraiment dommage, parce que c'est du copinage à base de « Ah, j'ai fait telle école, du coup, ce serait cool que je prenne ce poste, regarde, on a fait des beuveries ensemble. » Puis toi, en attendant, ben, tu rentres chez toi, faire la vaisselle.
Et est-ce qu'une association comme Women in Games, qui veut justement promouvoir la place des femmes dans le jeu vidéo...
C'est la mixité.
La mixité, pardon. Ça veut tout dire, en fait.
Ouais. Moi, j'ai mon positionnement sur Women in Games, qui est une association qui fait énormément de choses. Y a plein de membres actifs, il y a des nanas hyper motivées, et globalement, c'est moteur. Je sais pas exactement ce qu'elles font pour l'industrie en elle-même, parce que pour moi, Women in Games, c'est surtout une... Ça va surtout mettre en avant les talents liés aux jeux vidéo. Par exemple, les streameuses qui se prennent plein de merde dans la tête, elles vont les défendre bec et ongle. Et ça, c'est génial parce que c'est un métier aussi. Il y a énormément de choses qui sont pas reconnues pour ces personnes-là. Les métiers du marketing aussi. Mais concrètement, pour les artisans ou les artisanes, je sais pas, du jeu vidéo, je crois que Women in Game fait pas grand-chose. Je vais pas leur cracher dessus, pas du tout. C'est juste que je crois que c'est pas leur cible. Et puis, je me plante peut-être, hein. S'il vous plaît, faites-moi avoir tort. Je vois pas beaucoup de représentations de personnes qui fabriquent des jeux vidéo là-bas.
Quand tu bosses, par exemple, tu bosses avec de la musique de
tout
jeux vidéo ?
Tout le temps !
C'est vrai ?
Pas de jeux vidéo, forcément. Je bosse tout le temps avec de la musique. C'est essentiel parce que j'ai un gros problème de concentration.
Ah !
Il suffit que quelqu'un parle autour de moi et j'ai du mal à me concentrer sur la tâche que je suis en train de faire. Du coup, de temps en temps, j'ai des boules caisses parce que la musique, ça suffit pas.
Et alors, qu'est-ce que t'écoutes ?
Ouh ! Globalement, du funk, du hip-hop, de la musique classique. Je pense que le genre de musique que j'écoute le moins, ça doit être musique contemporaine. Tu vois, le classique contemporain. Genre Philip Glass. Non. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en écoutant les SC de Nier. Le premier Nier, pas Automata. Et quand j'ai refait le jeu, j'ai aussi pleuré toutes les larmes de mon corps aussi, parce que c'est un jeu extrêmement triste. C'est vraiment sadique. Regardez, c'est mignon. Il y a des monstres et tout. Et en fait, après, t'entends les pensées des monstres. Bref. Ouais, après, comme tout le monde, hein, les Final Fantasy. Même si ça, c'est plus des trucs de quand j'étais ado. Parce que après, quand on grandit, on est moins touché par ce genre de choses. Enfin, je suis moins touché par ce genre de choses.
Comment tu l'expliques ?
Maintenant que j'ai mes expériences et mon recul par rapport à plein de choses... Il y a des choses que je trouve un peu artificielles ou bourrines dans la mise en scène ou dans la façon d'exprimer des sentiments, des émotions.
Si tu devais faire étudier un jeu, par exemple, pour le UX,
ouais.
Est-ce que tu aurais un jeu modèle à faire étudier ? Genre le jeu qui te semble quasi parfait au niveau de l'interface.
C'est fou. J'ai eu Nier Automata en tête parce que ça m'a fait marrer les trucs d'interface qu'ils ont mis dans le jeu. Par exemple, dans l'interface du jeu, t'es dans l'interface de la tête du personnage principal. Et ça, au niveau diégétique, narration, c'est parfait. C'est parfait. Après, t'as le fameux jeu dans l'espace. J'ai oublié le nom.
Faster Than Light ?
Non. Où l'interface, elle est diégétique aussi, tu l'as dans le dos.
Dead Space.
Ah, voilà. Ben, l'interface de Dead Space, elle est diégétique et c'est cool. Parce que du coup, c'est pleinement intégré à l'histoire. Quand tu regardes sur ton interface de poignet, le personnage regarde sur son interface de poignet en même temps et on interagit. Ce que j'aime bien, hein, c'est les interfaces diégétiques. C'est quand c'est intégré pleinement au jeu. C'est pas juste un truc qu'on va coller sur un écran.
Genre typiquement les menus à la Skyrim où tu as toute une liste de...
Ouais. Non, ouais, bah dans Nier Automata, ce qui était cool, c'est ça, c'est le menu, il est dans la tête du logiciel du personnage principal. Et si on enlève des trucs dans le menu, ça enlève des trucs dans le jeu. Tu peux même t'auto-détruire et terminer le jeu comme ça. Alors moi, j'ai jamais joué à Persona. Par contre, j'ai vu de longues vidéos d'explications sur l'interface de Persona 5 et ça a l'air génial. Ça a l'air génial graphiquement. Après, j'attends de jouer au jeu pour voir si c'est accessible aussi. Parce que ces derniers temps, j'ai des questions d'accessibilité qui me sont chères, forcément, vu que je suis du RJV. Donc, changer la taille de police d'écriture, l'espacement, le placement des boutons, pouvoir configurer sa manette, ça, ce serait bien d'intégrer ça à tous les jeux.
Pour les personnes en situation de handicap, que ce soit visuel, moteur.
Ouais, ou même les personnes 10, les dyslexiques, ça ne les avantage pas. Et attends, comment on dit déjà ? Les daltoniens.
Ah oui, c'est vrai, on pense pas au daltonisme. Mais...
Ouais, il y en a beaucoup, il y en a énormément en fait, dans les joueurs et joueuses de jeux vidéo. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées pour ces personnes-là non plus. En général, c'est sur certains projets, on me laisse faire ça. Par exemple, là, j'ai travaillé sur Ticket to Ride, et c'était un truc qui me tenait à cœur, c'était de changer les wagons pour qu'ils soient compatibles avec la vision des joueurs qui ont du daltonisme. Et du coup, j'ai fait un petit travail dessus et c'était cool. Après, le reste du jeu, ben, en fait, c'est pas forcément du budget, c'est aussi de la technique. Parfois, il y a des codes, ils sont tellement vieux. Si tu touches, si tu modifies des choses, ça va tout péter partout. Et au niveau budget, ça va être, je sais pas, 6 mois de travail par 4 personnes. Et c'est plus compatible avec les intérêts financiers de la boîte, quoi. Et ce que je comprends, et c'est dommage parce qu'il faudrait faire ça au tout début du jeu. Se dire, allez, on va faire une interface. On va pouvoir changer la taille des polices de caractère, on va pouvoir changer tout plein de choses, quoi. Et c'est pas ce qu'on fait, hélas. Mais, le savais-tu ? Je crois qu'en 2022, ça va être obligatoire. En tout cas, aux États-Unis, ils ont passé quelque chose. Je crois que c'était Obama qui avait fait ça à l'époque. Actuellement, il y a des obligations de changer les polices, tout ça, mais c'est sur Internet uniquement. Bientôt, ça va être étendu à tout ce qui est logiciel et jeux vidéo. Donc les boîtes, il va falloir qu'elles se sortent les doigts et qu'elles commencent à se mettre aux normes. Ça va être américain, mais de toute façon, quand tu fais du jeu, tu fais ça pour un public américain. Donc,
oui, si tu touches pas le marché américain, tu te prives d'un nombre conséquent de joueurs. Donc autant le faire pour tout le monde, finalement. Qu'est-ce que t'aimerais réaliser dans l'avenir ? Est-ce que tu as des ambitions ?
J'aimerais bien avoir une équipe. Parce que je suis trop seule. Comme je te l'ai dit, j'ai rejoint le jeu vidéo parce que j'adore bosser avec des gens. Et dans les boîtes où j'ai été, j'ai toujours été dans des petites équipes d'artistes. Et j'aimerais bien savoir ce que ça fait de bosser dans une grande équipe d'artistes. Sinon, y a plein de jeux que j'ai envie de faire, mais il y en a tellement.
Mais quel genre de jeu t'aimerais faire ?
Des jeux qui sortent de l'ordinaire, qui proposent des environnements qui ne sont pas réalistes. Il y en a marre. Des jeux non violents, des jeux de rythme, des jeux qui fassent rêver les joueurs.
Est-ce qu'il y a des jeux qui, toi, t'ont fait rêver et qui te servent un petit peu de base, de modèle ?
Mes jeux préférés, Hollow Knight, je sais pas ce qui m'a accroché exactement dans ce jeu, mais je crois que ça m'a vraiment touché au fond de moi. Pourtant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire, mais c'est magnifique. Et puis les musiques, oh là là. Après, je dis que j'ai envie de faire des jeux non violents, mais mes jeux préférés, c'est Bloodborne et Dark Souls. J'aime bien aussi Dead Cell et Hades. Enfin, des jeux où tu tapes sur tout ce qui bouge. Mais je pense que si jamais c'était d'autres actions et que c'était aussi frénétique, ça passerait aussi. On pourrait peindre des tableaux, on pourrait faire du jardinage, couper des cheveux.
Animal Crossing de l'extrême.
Oh là là. Bon, on a un concept. Hein.
C'est génial.
Allez.
Franchement. Bah, écoute, merci beaucoup, je dis qu'à elle.
Bah, merci beaucoup, Marion.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le suivant, on part vers l'ouest, à Rouen. On va rencontrer un développeur indépendant de jeux mobiles narratifs et très interactifs. Une scopie.